Il est 8h49 minutes. Un rapport qui vient d'être publié sur la possibilité que des pays comme la Russie et l'Arabie Saoudite cherchent à s'ingérer dans la prochaine élection fédérale qui s'amène, là, qui va être pour le printemps. Et ça inquiète beaucoup les autorités canadiennes. Un rapport qui fait état de possibles campagnes de désinformation sur le web et qui viserait à renforcer le mouvement souverainiste au Québec et à déstabiliser l'élection du mois d'octobre prochain. Pour en parler, Nicolas Pellerin-Roy est chercheur à la chaire Raoul Dandurand, spécialiste de la cyberdiplomatie, cybersécurité. Bonjour, M. Pellerin-Roy.
Bonjour, M. Lacroix.
Est-ce que c'est nouveau, ça, que des... on a vu, là, que, évidemment, la Russie s'est intéressée aux élections aux États-Unis, mais qui s'intéresse aux élections canadiennes, est-ce que c'est nouveau?
Ben oui, en fait c'est nouveau parce que ça suit souvent les cycles électoraux.
Ouais.
Par exemple, après les élections américaines, on a vu les élections françaises, allemandes et tout ça être sensiblement touché par ces tentatives-là. Donc, avec une élection canadienne, bien surtout avec par exemple le Canada qui appuie largement l'Ukraine,
ouais,
dans ses différends avec la Russie, ben c'est pas nouveau et je dirais que c'est peut-être la suite normale des choses.
Bon, quel est l'intérêt que pourrait avoir, par exemple, l'Arabie Saoudite dans l'intervention qu'il pourrait avoir dans les élections chez nous?
Ben, pour l'Arabie Saoudite, par exemple, précisément, on a vu, par exemple, toute l'histoire de Raif Badawi ou de, ouais, Jamal Khashoggi l'année dernière, où le Canada avait vraiment condamné l'Arabie Saoudite. Et on a vu l'année dernière une tentative quand même grotesque de l'Arabie Saoudite d'essayer de en utilisant des trolls, par exemple, sur Twitter ou sur Facebook, tenter de motiver la souveraineté au Québec, mais c'était fait de manière très maladroite et très...
Oui, c'était cousu de fil blanc.
C'était trop gros pour être vrai, là, effectivement.
Bon, pourquoi on se sert...
Donc, ce serait vraiment de s'opposer...
Ouais. Mais pourquoi on se sert de la menace souverainiste pour faire la propagande, justement, et essayer de contrôler l'élection?
Mais le but de ces pays-là, c'est vraiment de créer, comme vous l'avez dit, une division dans le pays. C'est-à-dire, on l'a vu par exemple aux États-Unis, c'est un cas de figure où tous les mouvements d'influence ou de désinformation tentaient vraiment de diviser la société américaine. On divisait par exemple le mouvement noir des mouvements suprématistes blancs, la gauche et la droite.
Oui.
Tout ça en fait pour que à l'interne, pour que les problèmes soient vraiment à l'interne et que le pouvoir arrête de regarder sur la scène internationale. Au Canada, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire vous avez un point de fracture, une ligne de fracture évidente qui est Québec versus Canada. Donc, aujourd'hui, on le voit peut-être encore avec les réactions à la loi 21, par exemple. Ce sont des points de fracture, des lignes de fracture qui pourraient être exploitées, en fait, pour créer une dynamique de zizanie au sein du Canada qui obligerait, en fait, ça pourrait créer des crises qui obligeraient le premier ministre, le gouvernement, à centrer son attention et ses actions sur la politique interne, en fait,
ouais,
qui ferait en sorte que
ça
détournerait de ses visées externes.
Mais est-ce qu'on vise particulièrement le Parti libéral ou si c'est... parce que, bon, est-ce que ça veut dire que s'il y avait, par exemple, le Parti conservateur qui prenait le pouvoir à la prochaine élection, la Russie serait plus heureuse ou l'Arabie saoudite serait plus heureuse?
Ben, je croirais pas, en fait. Je crois que ça vise vraiment à créer, si ça s'avère vrai, faut pas prendre ça non plus pour acquis.
Mais il y a quand même un rapport qui a été fait pour
Oui, dans le sens que c'est sûr que le gouvernement se prépare au pire, parce qu'on,
ouais,
a vu le pire arriver dans d'autres pays, donc à ce moment-là, c'est prudent de penser à ces éventualités-là.
Ouais.
Mais bon, il y a des fois dans certains pays où ça l'a fait patate un peu, où on a un peu... on a prédit une grande intervention qui ne s'est pas avérée aussi importante. Donc, est-ce que ça vise uniquement le Parti libéral? Je ne croirais pas, c'est-à-dire que le Parti conservateur n'a pas été par le passé un grand allié de la Russie également, qui le Parti conservateur de Stephen Harper, par exemple, prenait souvent parti pour l'Ukraine. Donc, est-ce que à ce moment-là, la Russie favoriserait un parti plus que l'autre? Je ne croirais pas. Je crois que peu importe le gagnant, si des pays comme la Russie ou l'Arabie saoudite ont réussi à créer un, une discorde au Canada, je crois qu'à ce moment-là, le pays serait gagnant. Ben, le pays, en fait, qui interviendrait, bien sûr, là.
Mais comment on s'y prend? De quelle façon on peut orienter le résultat d'une élection un pays comme la Russie, par exemple?
Ben, comme un pays comme la Russie, pareil, vous pouvez utiliser le pouvoir des médias sociaux, c'est-à-dire que encore une fois, j'utilise beaucoup l'exemple des États-Unis parce que c'est vraiment ça a été flagrant et ça fait cas de figure, comme je l'ai dit. Vous avez par exemple des faux comptes Twitter ou des faux comptes Facebook qui mettent des messages continuellement, qui essaient de favoriser une certaine ligne éditoriale. Vous avez par exemple l'intelligence artificielle aujourd'hui qui peut créer des messages ou répondre automatiquement à des articles de, je sais pas, La Presse, Le Devoir, Radio-Canada et tout ça, pour tenter d'alimenter justement cette discorde-là ou ces conflits-là qui cherchent à exploiter ces animosités, ces lignes de facture-là. Donc aujourd'hui, plus vous augmentez le volume de messages, plus vous avez un message précis qui vise les gens déjà convaincus, parce qu'avec les médias sociaux, on a souvent l'effet de silo, c'est-à-dire que on cherche à convaincre davantage des déjà convaincus. Donc, à ce moment-là, vous avez des convaincus qui voient des messages passer, qui renforcent leur conviction. Et là, à ce moment-là, c'est ça, vous avez des pôles qui se constituent et qui deviennent vraiment là, des... Comme vous avez aux États-Unis, vous avez la gauche et la droite qui sont vraiment aujourd'hui des blocs monolithiques. Alors aujourd'hui, on pourrait, pendant les prochaines élections, on pourrait avoir par exemple des mouvements nationalistes vraiment qui font bloc contre un Canada qui est vraiment aussi convaincu.
Est-ce qu'on est protégé contre ça? Est-ce qu'on a des mécanismes de surveillance? Est-ce que les lois canadiennes permettent justement de bien se protéger face à des attaques comme celle-là?
Mais vous savez, c'est vraiment très dur de se protéger de ces attaques-là parce que la principale victime, la personne qui pourrait s'en protéger, c'est l'individu, en fait, c'est le citoyen. C'est-à-dire que le gouvernement a bien tenté de convaincre les Twitter et les Facebook de ce monde d'exercer un contrôle à leur niveau. Mais c'est quand même, vous savez, ces pays-là, comme des pays comme la Russie ou l'Arabie Saoudite, s'adaptent aux choses aux initiatives qui ont été entreprises par les pays pour s'en protéger. Donc, vous avez des pays qui essaient de contourner les mécanismes de défense qui sont en place. Donc, à ce moment-là, est-ce que c'est possible réellement de tout bloquer et de tout détecter? Je ne croirais pas. Alors, c'est pour ça que les précédents rapports du gouvernement, par exemple, mettaient vraiment l'accent sur la prévention et de sensibiliser les citoyens à exercer un esprit critique avec ce qu'ils voient et ce qu'ils peuvent entendre, en fait. Parce que c'est ça l'important. Vous savez, quand on voit sur Facebook des fausses nouvelles être relayées des milliers de fois, ça veut dire qu'il y a des milliers de personnes qui n'ont pas vérifié la véracité de l'information. Oui. Donc, c'est à ce moment-là ces automatismes-là qu'il faut mettre de la pression, ou du moins sensibiliser les citoyens à avoir ce réflexe-là de vérifier, de contre-vérifier les informations.
C'est la nouvelle forme de propagande jusqu'à un certain point, n'est-ce pas?
Oui, effectivement, c'est de la propagande, je dirais, qui s'exerce souvent en douceur.
De façon insidieuse,
oui. Oui, insidieuse, parce que bon, on parlait de l'Arabie Saoudite l'année dernière qui était pas subtile vraiment, là, mais c'est, disons, une propagande faite par des éléments russes, par exemple, aux États-Unis. C'était pas fait pour être vraiment clair et détectable. C'était fait, comme vous l'avez dit, pour être insidieux, pour être subtil, pour stimuler les mouvements, les antagonismes à l'intérieur. Donc, effectivement, une nouvelle sorte de propagande. Je dirais que tous les pays aujourd'hui font peut-être un peu le même jeu, là, peut-être pas à des degrés.
Est-ce qu'on le fait, nous, à l'extérieur?
Ben écoutez, est-ce qu'on le fait à l'extérieur?
À votre connaissance?
À ma connaissance, non. Je ne suis pas dans le secret des dieux, malheureusement. Mais écoutez, je veux dire, dans une époque précédente, les États-Unis se gênaient pas non plus pour utiliser la propagande pour influencer les politiques des pays, des autres pays. Donc, à ce moment-là, ça fait partie aujourd'hui de l'arsenal, si on veut, des des pays de faire avancer leurs intérêts. Donc,
est-ce
que c'est sûr que nous, dans une future élection, on pourrait être malheureusement la victime de ce genre d'initiative-là, mais c'est pas dit que dans les prochaines années, on n'utilise pas les mêmes moyens.
Ouais.
Je sais que c'est éthiquement peut-être pas le meilleur moyen. Je crois pas que le Canada se vanterait d'utiliser ces moyens-là, mais voilà. Ça pour
en période de conflit, la première affaire qui prend le bord, c'est l'éthique.
Oui, c'est ça. Donc, c'est aujourd'hui, avec le pouvoir des données, le pouvoir des médias sociaux, comme vous l'avez dit, en période de conflit plus intense, un pays comme le Canada, les États-Unis pourraient utiliser effectivement les mêmes moyens.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Tout le plaisir était pour moi.
Au revoir, Nicolas Pellerin-Roy, et chercheur à la chaire Raoul Dandurand. Il est spécialiste de la cyberdiplomatie et cybersécurité.